Tamani, toutes les voix du Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
18h à Bamako, merci d'écouter Studio Tamani. Une nouvelle trêve de 30 jours entre la CMA et la plateforme vient d'être signée. Après l'expiration du cessez-le-feu qui date du 23 août dernier, les différentes parties ont accepté de le renouveler afin de créer un climat propice à la mise en œuvre intégrale de l'accord de paix. Selon certains observateurs, cette trêve s'explique par la pression de la communauté internationale sur les différentes parties. Ils estiment que des divergences de points de vue persistent encore entre les belligérants. L'Office central des stupéfiants a arrêté la semaine dernière à Bamako un individu qui transportait 1,8 kg de cocaïne ingérée. La valeur de la drogue est estimée à 36 millions de francs CFA. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Mali, Alain Giresse, a annoncé hier sa démission. Cette décision fait suite au résultat des récents matchs face au Maroc qui exclut les aigles de la course au Mondial Russie 2018. Présentation de ce journal à Seto Kanté. Bonsoir à tous et bienvenue. La trêve de 15 jours entre la CMA et la plateforme qui est arrivée à expiration mercredi vient d'être renouvelée pour une période de 30 jours. Le document a été signé hier à Bamako par les représentants de deux groupes armés, Idrissa Sakho.
Ce cessez-le-feu de 30 jours renouvelable entre la CMA et la plateforme entre en vigueur à partir de ce jeudi. Les deux groupes rivaux qui s'étaient violemment affrontés en juillet dernier étaient parvenus à une trêve de 15 jours qui leur a permis de mettre de côté leurs différends afin de préparer le retour de l'administration à Kidal. La trêve saluée par le gouvernement et la communauté internationale a pris fin hier. Mercredi, les deux groupes armés ont annoncé à travers un communiqué conjoint renouveler cette trêve pour mettre fin aux hostilités qui ont fait plusieurs morts dans les deux camps. La CMA et la plateforme souhaitent poursuivre les discussions en vue de parvenir aux objectifs fixés par l'accord de trêve du 23 août 2017. Par cet acte, les signataires s'engagent à poursuivre dans les mêmes termes la trêve pour une durée de 30 jours renouvelable à compter du 6 septembre 2017. Cette décision, selon le communiqué, prend à témoin la communauté internationale, le chef de file de la médiation internationale et le gouvernement. Notre décision fait foi de notre engagement à tout mettre en œuvre pour créer un climat propice à la mise en œuvre intégrale de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali, issu du processus d'Alger, souligne les deux parties. Ce pacte de non-agression intervient au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU a voté l'instauration d'un régime général de sanctions pour le Mali dans le cadre du processus de paix.
Selon certains observateurs, cette trêve s'explique par la pression de la communauté internationale sur les différentes parties. Suleiman Drabo, éditorialiste au quotidien national L'Essor, estime que le fait que ce soit juste un cessez-le-feu et non un accord définitif prouve que des divergences de points de vue persistent entre les belligérants. Il est joint au téléphone par Idrissa Sakho.
Comment la première trêve était intervenue? Elle était intervenue dans un contexte de défaite militaire du Gacha, bon, d'un triomphe relatif de la CMA. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau, c'est que, entre-temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris un train de sanctions contre tous ceux qui s'opposaient au processus de paix. Je crois que ça aussi, ça a incité les protagonistes de la crise à signer un nouveau cessez-le-feu un peu plus long que l'ancien. Mais le fait que ce soit un cessez-le-feu et non un accord définitif, ça veut dire qu'il reste beaucoup de problèmes en suspens.
Alors, une première trêve, ensuite une seconde trêve, est-ce que ne peut-on pas aller à un accord définitif?
Oui, je pense que les choses ne sont pas encore mûres entre les deux groupes parce que vous ne pouvez pas effacer d'un trait de plume les combats récents, les morts qu'il y a eu dans les deux camps, les frustrations que ces massacres parfois intercommunautaires ont engendrés. Vous ne pouvez pas les effacer du jour au lendemain. Mais il faudra du temps pour que puisse dépasser ces rancunes.
Réagissez à toutes ces informations sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros, 75 84 11 11 ou le 75 84 12 12. Une trentaine de personnes enlevées dans le village de Namba, non loin de Diafarabé, en début de semaine, ont été libérées hier soir. De sources locales, un calme précaire règne dans la ville. Toutefois, la population reste paniquée. Certains habitants de Namba soulignent que les ravisseurs exigent à toutes les femmes du village le port du voile. Sekouba est un ressortissant de Namba. Il est joint au téléphone par Fatih Yattara.
Relâché hier vers 1h du matin sur un nombre de 17 personnes. Les ravisseurs avaient demandé
demandé la présence du chef du village, l'imam et puis des autres médiateurs. Donc ceux-ci les ont rencontrés, ils ont négocié, ils ont demandé à ce que la population se plie à leur ordre, à leur dictat. Ça veut dire qu'il faut que les femmes continuent à se voiler. Donc si les femmes se voilent, ils ne voient pas d'inconvénients. Mais quand les femmes auront refusé de se voiler, ils vont les tabasser, ils vont les frapper. Donc dès qu'ils n'aiment pas aussi la présence des forces, il faut pas que l'armée intervienne, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se plier à leur femme, c'est juste meilleur. Bon, pour le moment, c'est Dieu merci, c'est le calme, mais sous la terre, les populations sont inquiètes. Ça passe de ce que sera fait demain. Et en tout cas, toute femme qui sort dans les rues, si tu n'es pas voilée, si tu es dans la ils vont te fouiller. Les autorités ont été alertées quand même, mais pour le moment, on n'a pas la réaction des autorités pour le moment.
Je vous l'annonçais dans les titres, l'Office central des stupéfiants a arrêté la semaine dernière à Bamako un individu qui transportait 1,8 kg de cocaïne ingérée. La valeur de la drogue est estimée à 36 millions de francs CFA. Le suspect de nationalité nigériane, âgé de 36 ans, avait d'abord été interpellé par des éléments de la cellule drogue de l'Office central des stupéfiants avant d'être arrêté. Selon son directeur, le suspect a progressivement expulsé par voie rectale les 106 boulettes de cocaïne qu'il avait avalé. Adama Tunkara, directeur de l'Office central des stupéfiants, donne plus de détails au micro d'Aïssa Taba.
Nous avons interpellé un individu était en provenance d'un pays voisin du Mali. Nous l'avons interrogé par rapport à un certain nombre de choses. Nous avons proposé de l'amener faire une radiographie et suite à cette information, il a reconnu qu'il avait ingéré des boulettes de cocaïne. Donc nous l'avons gardé en observation pendant 48 heures et pendant ces 48 heures, il a par voie rectale expulsé 106 boulettes de cocaïne. Son audition a été fait. Un échantillon du produit saisi a accompagné la procédure et le suspect a été présenté au procureur du pôle judiciaire spécialisé. Tous les produits saisis sont conservés et à un moment donné, en fonction de la quantité, nous demandons l'autorisation au procureur pour procéder à leur incinération.
Opération 3 jours sans radio à Nsongo dans la région de Gao. Cette action qui a débuté depuis le mardi dernier fait suite à une mobilisation contre l'agression d'un journaliste de la place dans l'exercice de sa fonction. Le président de l'URTEL qui a réagi condamne l'acte et demande aux autorités de prendre des dispositions pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Écoutons Bandjougou Danté, président de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali.
Nous avons été choqués par cette situation difficile à admettre. Difficile à admettre dans un pays des droits. Comment un journaliste dans l'exercice de sa profession qui a respecté les règles élémentaires de l'éthique et de la déontologie, nous allons tout faire pour que la lumière soit faite sur cette affaire-là et quand les autorités sont en train de traiter un dossier, nous leur faisons confiance. Le Mali est un pays des droits. Il est du devoir des uns et des autres de faire montre de retenue. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes dans un contexte de fragilité. Il ne faut pas ajouter la crise à la crise. Mais il ne faudrait pas non plus que les gens profitent de certaines situations pour régler des comptes personnels ou pour envenimer. Nous demandons vraiment aux populations de rester sereines et calmes et nous invitons aux autorités de s'assumer.
Le mouvement Urgence panafricaine au Mali organise une manifestation le 16 septembre prochain à Bamako. L'objectif est de montrer leur soutien à l'activiste franco-béninois Kémi Séba, expulsé ce mercredi par les autorités sénégalaises pour trouble à l'ordre public. Selon les responsables du mouvement, cette extradition ne mettra pas fin à leur combat. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Mali, Alain Giresse, a annoncé ce mercredi sa démission. Cette décision fait suite aux résultats des récents matchs 6-0 et 0-0 et aux 0-0 concédés face au Maroc qui élimine quasiment les aigles de la course au Mondial Russie 2018. Selon des chroniqueurs sportifs, le départ du coach Giresse était perceptible. Ils estiment que son parcours n'était pas à la hauteur des souhaits. Moussa Boulay, chroniqueur sportif joint au téléphone par Yaya Traoré.
Je pense que c'était prévisible après la débâcle du Maroc le 1er septembre et puis le nul catastrophique au stade du 26 mars. Je pense que même si la fédération et le ministère avaient du mal à les pousser vers la sortie compte tenu de la nature du contrat, le public sportif ne lui laissait plus tellement le choix et se sentait plus désiré par le public malien. Donc le désamour était total.
Quel genre d'entraîneur faut-il pour le football malien?
Moi, je vois une composante, c'est-à-dire un entraîneur expatrié, parce que l'organisation professionnelle du football en dehors de l'Afrique est très complexe, donc un entraîneur national ne fait pas forcément l'affaire. Mais je vois un entraîneur expatrié, mais qui est assisté par un très bon technicien local, dont la mission essentielle sera de doter l'équipe nationale d'une ossature locale. Mais le parcours de Gilas, objectivement, c'est un parcours catastrophique.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Un véhicule transportant 14 personnes a sauté hier soir sur une mine à Infizaran sur la route de Menaka. Le bilan fait état des morts et 3 blessés. Les blessés et le défunt ont été conduits au centre de santé communautaire de Indalimen. Une équipe du ministère des Mines s'est rendue cette semaine sur les sites d'orpaillage de Fourou et Missini dans le cercle de Kadiolo. La mission a sensibilisé les orpailleurs sur les nouvelles mesures qui seront appliquées sur ces sites. Il s'agit de recenser tous les habitants des sites, installer des comptoirs d'achat et créer des couloirs d'exploitation. L'objectif est de rendre le secteur plus viable et d'atténuer ses conséquences néfastes. Dans un instant, c'est le Grand Dialogue. Bonsoir Mohamedou Touré.
Bonsoir Assetou Kanté.
Alors ce soir, vous allez aborder quel sujet?
Mise en œuvre de l'accord de paix, quelle efficacité du régime de sanctions de l'ONU? C'est la question qu'on va poser à 3 invités ce soir. Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISS de Dakar, Mamadou Konaté de l'école de maintien de la paix et André Bourgeot, chercheur au CNRS de Paris qui sera au téléphone depuis la France.
Merci et très bon débat. Restez avec nous dans un instant, le magazine.